Bonjour. Il y a un petit bout de phrase qu'on vient de chanter. Mon secours est en toi. Et je vous encourage de garder ça à l'esprit pendant qu'on va regarder sa parole ce matin. Il y a des feuilles de disponibles pour ceux qui s'intéressent pour aider à suivre. Il y a aussi des crayons pour si vous voulez prendre des notes. Et vous n'êtes pas obligé, là. Alors, prions. Notre grand Dieu, on veut te louer, te remercier de ce que tu as eu compassion de nous. Tu savais très bien dans quel état nous étions, perdus, sans espoir, dans une impasse interminable qui nous menait nulle part. Tu connaissais qu'on avait des cœurs brisés, meurtris. Et comme on vient de chanter, eh bien, tu nous as offert le secours, le seul secours qui véritablement peut nous remettre sur pied, peut nous consoler, peut nous restaurer. Et ça, tu as accompli en ton Fils Jésus-Christ, en l'envoyant ici-bas subir le châtiment que l'on méritait. Et tu as invité chaque être humain à reconnaître leurs besoins, leurs conditions et de reconnaître que la seule solution, c'était ton Fils. Par la foi en lui, qu'on puisse passer de la mort à la vie. Père, on te prie que tu puisses continuer à nous accompagner, nous instruire, éclairer notre compréhension afin de mieux saisir ce que tu révèles dans ta parole et que cela puisse nous permettre de mieux te connaître, mieux t'apprécier, mieux t'adorer, mieux te servir, mieux te suivre. Et cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, Dieu révèle qu'est-ce qu'il croyait, lui, qui était pertinent pour nous, les êtres humains. Même si parfois, nous, on se demande pourquoi que ça s'est révélé. Mais lui, il savait mieux que nous. Et pour ce faire, il emploie plusieurs manières. Il y a des écrits historiques, poétiques, prophétiques, puis bien d'autres. Et parfois, il traite de sujets qui nous embêtent un peu parce que c'est comme s'il avait parsemé à travers sa parole des morceaux de casse-tête qui nous demandent, dans un sens, d'aller chercher, identifier, puis de voir comment est-ce qu'ils peuvent être rassemblés. Et le sujet que nous allons regarder ensemble ce matin, c'est un peu dans cette optique-là. C'est que Dieu a mis dans sa parole des morceaux du casse-tête, puis il nous demande, dans un sens, en prenant connaissance de sa parole, de pouvoir l'identifier puis voir comment est-ce que ça cadre ensemble pour faire un tout. Mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on revise un petit peu ce que j'ai partagé avec vous la dernière fois. C'est que Dieu nous a créés pour avoir des relations profondes. Et comme on a mentionné, basé sur un choix, fondé sur l'amour, puis apportant satisfaction. C'était le but, le désir de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être comme des bibelots qu'il pourrait mettre sur une étagère. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui, et de là découle aussi la possibilité d'avoir une relation les uns avec les autres. Puis une relation spéciale et intime entre un mari et son épouse. On a vu à travers ce qu'on a vu jusqu'à date, puis je vous demande pas de, je vous demande, je ferai pas un, faire un test pour savoir, mais en tout cas, mais ça c'est, on a tous vu ça sur la personne de Dieu, du fait qu'il est unique et sans pareil, qu'il se distingue de sa création, même de l'être humain. Puis on s'est aussi penché sur quand il a créé les anges. Puis, eux aussi sont des créatures de Dieu, puis ils sont distincts et différents de Dieu. Juste pour se remettre un peu dans le contexte, parce que on va développer un peu davantage cet aspect-là. Les anges, bien Dieu les a créés parfaits, mais non pas à son image. Ils peuvent penser, avoir des émotions et faire des choix. Ils existent pour Dieu, exécuter ses ordres et l'adorer. Ils sont plus forts et intelligents que les humains, mais pas plus forts et intelligents que Dieu. Ils se déplacent rapidement, mais ne se trouvent qu'à un seul endroit à la fois. Ils peuvent prendre une forme physique et parler des langues humaines. Et il y aurait peut-être d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça vous donne un aperçu de ce qui caractérise les anges. Alors, il est évident que les anges ne sont pas égaux à Dieu. Les deux premiers chapitres de Genèse nous rapportent l'œuvre créatrice de Dieu. Il l'a achevé et jouissait de sa relation spéciale avec l'homme et la femme. Et les êtres humains jouissaient d'une harmonie et d'une unité parfaite avec leur Créateur, les uns avec l'autre, et avec le monde dans lequel Dieu les avait placés. Alors, à ce moment-là, toutes les relations étaient parfaites, sans faille. Alors, c'est le cas jusqu'à la fin du chapitre 2 de Genèse. Tout était idéal dans ce jardin, parfait. Mais il est évident que ça n'a pas duré. Parce que dès le début du chapitre 3, il y a un point tournant. Alors, dans ce verset, ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Quelle est l'identité de ce serpent? Quel être créé oserait mettre en doute le caractère pur de Dieu? De toute évidence, quelque chose de complètement contraire au dessein original de Dieu s'est produit après la création. après que Dieu ait dit que tout était parfait. Eh bien, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous fournit des indices sur l'identité du serpent et ses activités. Dans Apocalypse 12, 7 à 9, ça dit, « Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. » Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, l'indice que nous avons ici, c'est que le serpent ancien, bien, on doit déduire qu'il fait rapport à ce que c'est qu'on voit dans Genèse 3:1, le serpent. Mais là, il l'identifie comme étant le diable Satan. Et ce n'est pas que le serpent en lui-même était, on pourrait dire, fautif. Parce qu'il faisait partie de la création de Dieu que Dieu avait évalué comme étant parfaite. Alors, c'est pas que Dieu a créé le serpent, si on pourrait dire, avec un penchant qui allait à l'encontre de la perfection. Parce que quand elle a dit le serpent était le plus rusé, ça peut être traduit, était le plus prudent, le plus réfléchi. Et Satan s'est servi du serpent. C'est peut-être la première occasion d'un ventriloque. C'est juste une petite idée de poil qui passe par la tête, là. En tout cas, il s'est servi. Puis, il s'en sert pour s'adresser à Ève par l'entremise du serpent. Dans le prophète Isaïe le mentionne sous un autre nom. Ça dit, « Comment es-tu tombé du ciel à ce brillant fils de l'aurore? » Et il est vrai que dans ce passage, dans Isaïe, c'est que le prophète, Dieu demande au prophète de s'adresser à un roi. Mais la manière qu'il parle à propos de ce roi, c'est que c'est comme si des fois ça s'applique au roi humain, puis d'autres fois, mais ça se peut pas être, on dit l'être humain, c'est plutôt cet être créé qui est l'astre brillant. Mais Jérôme qui a traduit la Bible en latin, bien lui a traduit astre brillant par Lucifer, qui littéralement veut dire porteur de lumière. Alors, c'est un mot que quand on entend Lucifer, on l'associe, on va dire, à Satan, au diable. Même si dans la Bible française, le mot n'apparaît pas comme tel. Alors, ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a fait. Et surtout, se pencher sur le fait que Lucifer a défié son créateur en tant que propriétaire légitime, en tant que souverain suprême, en tant que Dieu saint. Alors, premièrement, Lucifer a défié son créateur en tant que propriétaire légitime. D'après le livre de Job, les anges ont été témoins lorsque Dieu s'est mis à l'œuvre de créer. Il les a premièrement créés, puis après ça, ils étaient comme des spectateurs de l'œuvre créatrice de Dieu. Et on voit ça dans Job 38, 4, 7. Puis Dieu s'adresse à Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chantant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, c'est certain que c'est un langage poétique, mais ça décrit ces êtres spirituels que Dieu avait créés qui éclataient de chants d'allégresse puis poussaient des cris de joie en tant que spectateurs de la création de Dieu. Et Lucifer est identifié dans Ésaïe 14, 12. Eh bien, Ézéchiel, lui, en parle en lui donnant un autre nom, un chérubin protecteur. Dans Ézéchiel 28, à 12 à 15, il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Alors, on voit, dans un premier temps, il va s'adresser au roi de Tyr. « Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais dans l'Éden. » Alors, ce roi-là, il a vécu longtemps, là. Parce qu'il était en Éden. Mais en réalité, c'est pour ça qu'on dit, mais ça ne peut pas être le roi de Tyr. Mais on voit un indice qu'il parle de cet être que Dieu avait créé. On continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais installé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce jusqu'à ce que l'on trouve de l'injustice chez toi. Alors, d'après cette description, ces quelques paroles, bien, Lucifer a été créé parfaitement, sage, beau et irréprochable. Il était aussi dans la présence de Dieu. Et Dieu déclare, par ces quelques paroles, son droit de propriété sur Lucifer, sur cet ange, sur ce chérubin protecteur. Il lui dit, j'espère que vous avez suivi sur la feuille, en tout cas. Mais là, voici ce que l'Éternel affirme, déclare concernant Lucifer, qui démontre que c'est moi le propriétaire. C'est moi l'Éternel qui est le propriétaire. Parce qu'il dit, le jour où tu as été créé. Puis c'est mentionné deux fois dans le passage. Tu étais un chérubin protecteur. Qui a déterminé qui serait un chérubin protecteur? Mais le créateur propriétaire. Je t'avais installé. En voulant dire, je t'ai confié une responsabilité. Alors, ce n'est pas Lucifer qui, si on peut dire, qui a pris l'initiative de se mettre dans ces rôles-là, dans ces responsabilités-là. Et Lucifer était présent et avait adoré Dieu avec les autres anges lors de la création, comme on a vu, qui était mentionné dans Job. Et comme on voit dans ce passage, eh bien, Lucifer était intègre, irréprochable, c'est-à-dire qu'il avait une conduite droite, comme le reste de la création de Dieu, il a été créé parfait, sans défaut. Qu'est-ce qui s'est donc produit? Eh bien, On voit ça encore dans le passage en suivant dans Ézéchiel 28. Je vais relire à partir du verset 15. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je crois que vous avez remarqué le nombre de fois que le pronom « tu » est employé. Il s'adresse directement à lui pour exposer ce qu'il y a sur son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, Lucifer? Eh bien, essentiellement, il a rejeté Dieu comme étant son propriétaire légitime. Son esprit, son cœur se sont enflés d'orgueil. C'est ce qui l'a rendu aveugle au fait qu'il avait été créé. Ça l'a aveuglé au fait pourquoi qu'il avait été créé, c'est-à-dire de servir son créateur, son propriétaire. Et on voit que Dieu lui-même le déclare coupable. Tu as péché. Le péché, eh bien, a été conçu ou s'est manifesté chez Lucifer lorsqu'il a résisté au droit de propriété de son Créateur. Ça ne faisait pas son affaire. Imaginez-vous, Dieu l'avait mis, si on pourrait dire, au sommet, il était dans la présence de Dieu. Il était, si on pourrait dire, le plus proche de Dieu que tous les autres, probablement. Mais pour lui, il semble que ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il était mécontent de ce que Dieu lui avait confié, ou les responsabilités qu'il avait, puis il enviait. Enviait le fait que Dieu, c'était lui qui était, on pourrait dire, comme on dirait en québécois, qui était le boss. C'est l'orgueil de Satan qui s'est manifesté, on pourrait dire, quand on regarde l'ensemble de ce que c'est qui est révélé. C'est comme s'il disait, ou au moins pensait, « J'ai pas besoin de Dieu. Il est pas bon. Je refuse de me soumettre au Créateur propriétaire. J'existe par ma propre force et ma propre sagesse. Personne ne règnera sur moi ou ne me dira quoi faire. » Moi seul ai le dernier mot sur tous les aspects de ma vie. C'est ce genre de pensée qui lui trottait dans la tête. Est-ce que j'ose vous demander de se demander, est-ce que c'est pas des pensées semblables qui nous trottent dans la tête? Hein? Si on est honnête, on est obligé. Ouais. Malheureusement, c'est le cas. Hein? Alors, Lucifer est devenu l'initiateur de toute méchanceté. Son orgueil était une offense contre Dieu, le refus de se soumettre à Dieu, son propriétaire. Quelle est la définition du péché? Eh bien, le péché est tout ce qui défie la volonté de Dieu, son règne ou son droit de propriété. Oups! Le péché est tout ce qui profane le caractère ou la parole de Dieu. Et ensuite, le péché peut être une mauvaise pensée, parole, action ou même une mauvaise attitude. Encore là, si on est honnête, si on se regarde dans le miroir et on permet à Dieu de sonder, de regarder notre cœur, ça nous ressemble. En tout cas, ça me ressemble. Et je vous dis pas parce que je veux m'en vanter. C'est juste une réalité. Alors, Lucifer a péché lorsque l'orgueil s'est emprise de lui, s'est manifesté dans son cœur, parce qu'il aspirait s'élever au-dessus de Dieu. C'est au niveau du cœur que ça commence. Dans son cas, puis aussi dans notre cas. Jésus a dit dans Matthieu 15, 19, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, puis tout le reste. » Jacques, chapitre 1, 14, 15, exprime de cette manière, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Comment un être parfait pouvait-il pécher de la sorte? Être créé parfait inclut avoir la capacité de choisir, d'aimer ou haïr, de se soumettre ou de défier, et Satan a fait son choix. Et on voit dans Apocalypse 12, 3, 4 qu'un tiers des anges a choisi de se joindre à Lucifer dans cette rébellion. Ils ont juré allégeance à Lucifer plutôt qu'à leur Créateur, se rendant ainsi coupables de péché contre Dieu. Puis, est-ce que ça a déstabilisé Dieu? Est-ce qu'il a pris panique? Pas du tout. Il est le Tout-Puissant. Cet ordre d'anges n'avait aucune chance face à Dieu. Leur mutinerie fut rapidement estompée. Quand on retourne à la dernière fois qu'on a regardé Adam et Ève, ils se retrouvaient eux aussi devant un choix similaire. Quel serait le choix d'Adam et Ève quand il leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève avaient le choix de se soumettre au droit de propriété de Dieu sur leur vie, où ils pouvaient le défier. Mais Dieu les avait avertis que le choix qu'ils avaient entraînait des conséquences s'ils se rebellaient, s'ils désobéissaient. Dieu ne mentait pas lorsqu'il a dit qu'Adam et Ève mourraient s'ils désobéissaient. Dieu ne profère jamais de vaines menaces. Et Dieu ne peut tolérer la défiance. Il est notre Créateur, notre propriétaire, le mien et le tien. Alors, Lucifer a défié son Créateur comme étant son propriétaire légitime. Ensuite, on voit un autre volet, c'est-à-dire que Lucifer a défié son Créateur en tant que souverain suprême. Dieu a démontré sa souveraineté lorsqu'il a appelé à toutes les choses à l'existence. On a vu que c'est seulement par sa parole qu'il a créé. Et depuis ce temps, bien, chaque jour, il soutient et gouverne sa création. Personne d'autre n'a le pouvoir ou l'autorité de renverser Dieu dans quelque domaine que ce soit. Dieu n'a aucun rival. Mais remarquez dans Isaïe 14, on a lu le verset 12, mais voici ce que ça dit dans les versets suivants, 13 à 14. Tu disais dans ton cœur, c'est intéressant, hein? Il parle encore du cœur. Tu disais dans ton cœur, puis là, remarquez le pronom personnel à la première personne du singulier, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Combien de jeux? J'en ai compté 5. Et ça fait juste démontrer à quel point qu'il était pris par son orgueil au point d'être égocentrique. Sa pensée, ses paroles, c'était, on répète, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Par ces « je », Lucifer contestait la souveraineté suprême de Dieu. Il rejetait l'autorité de Dieu sur lui. Il déshonore Dieu en suggérant que lui-même était égal à Dieu et capable de prendre sa place, de s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais on voit que Dieu ne s'est pas laissé intimider. Il dit, tu as été intègre, je répète là, mais dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ça, jusqu'à ce que qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Mais remarquez, ce que Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Puis l'Éternel rajoute, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est ainsi que Dieu riposte à la rébellion de Lucifer. Et tiré du passage, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alors, rien de ce qui s'était produit jusqu'à ce moment-là, ça a été, comment dire, ça s'est fait dans les coulisses, là. C'était évident pour l'ensemble des êtres créés. Mais ça s'était, ceux qui étaient fidèles, respectaient l'autorité, la souveraineté de Dieu et ceux qui s'y opposaient. Alors, on voit que Dieu est obligé d'employer les grands moyens, comme on dit. Et est-ce qu'il a réagi d'une manière exagérée? Bien, c'était tout à fait normal, dans un sens, parce que Dieu étant parfait, étant saint, bien, il pouvait pas juste faire semblant de rien, puis balayer ça en tout du tapis, comme on dit. Dans Hébreux 4, 13, ça dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu savait. Et Dieu, même si Satan aurait voulu, on pourrait dire, aller se cacher à quelque part là, pour manigancer quelque chose, Dieu était au courant. Mais il a laissé les choses se dérouler parce que, comme on a vu la dernière fois, Dieu respecte le choix qu'on fait. Pas qu'il l'approuve nécessairement, mais il le respecte. Et qu'est-ce qui était au cœur de cette initiative de se rebeller contre Dieu, à sa souveraineté? Bien, on l'a vu, ça, c'était au niveau du cœur, mais c'était l'orgueil. Ésaïe 42, 8 nous dit, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Il est en train de dire, « Je suis le seul et unique, il n'y en a pas d'autre. » S'il avait donné sa gloire à un autre, ou s'il permettrait que quelqu'un d'autre prenne sa gloire, qu'est-ce qui arriverait? Bien, il serait plus le souverain suprême. Et c'est pourquoi que Dieu a condamné Lucifer et ses acolytes pour leur péché. Il les a enlevés de leur place d'honneur et les a jetés en disgrâce sur la terre. Beaucoup pensent que le conflit entre Dieu et Satan, là, ça, on pourrait le représenter comme ça. OK? Plus ou moins égal. Okay? Mais en réalité, la Bible, c'est comme ça. Puis Satan, là, il est en bas, là. Tu sais, on le voit quasiment pas. Alors, c'est pas égal à égal, à savoir qui va remporter. Je me souviens que notre fils, un de nos fils, on a eu un petit garçon, puis il a grandi dans une famille où ce que c'est que l'Évangile, où la parole de Dieu est enseignée, puis ainsi de suite, puis lui, ça chicotait à savoir qui va gagner. Il dit, à la fin de tout ça, là, qui va gagner? Puis là, ben, naturellement, mon fils, il dit, ben, selon ce qu'on voit dans la parole, c'est Jésus, c'est Dieu. OK, alors là, j'embarque. Il était prêt à embarquer dans l'équipe gagnante. Parce que, il réalisait que, ben, Dieu, il est pas mal plus grand que même ses ennemis les plus acharnés. Ensuite, Lucifer a défié son Créateur en tant que Dieu saint. Dans Psaume 77, 14, ça dit « Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? » Et dans Psaume 11, 4, ça dit « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. » Alors, saint, c'est l'idée d'être complet, parfait, pur, mis à part, juste et sacré. Et c'est ce qui caractérise Dieu. Et de ce fait, tout jugement que Dieu fait sont des jugements qui sont parfaits, justes, équitables. Satan voulait s'emparer du saint trône de Dieu. Mais en faisant ce choix, il est devenu impie. Dans sa rébellion, Lucifer a déshonoré la sainteté de Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu a eu un rôle quelconque dans le péché de Lucifer? C'est-tu lui qui y a incité? Mais si Dieu est parfait, comment est-ce qu'un Dieu parfait pourrait nous inciter au mal, ou l'inciter au mal, ou même nous au mal? Non. Du début à la fin, dans ce réflexion-là qu'à Satan, Lucifer avait, c'était son propre choix par ses propres actes. Et du fait que Dieu est saint et juste, il doit punir le péché. Dans Apocalypse 12:9, ça dit, « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, et fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. » Satan, ça signifie adversaire, ennemi. Diable signifie faux accusateur, calomniateur. Et ces êtres spirituels qui s'étaient ralliés à lui, bien, au lieu d'être des anges, sont devenus des démons, des mauvais esprits. Et du fait que Dieu les a pas détruits sur le coup, ils ne cessent de tromper et de séduire, désireux d'égarer les gens pour qu'ils se joignent à leur rébellion contre Dieu. Alors, Satan a été chassé du ciel. Mais ça, c'est juste un volet ou une partie de la condamnation, du jugement de Dieu à son égard, parce que on voit dans Matthieu 25-41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le mot « enfer » n'est pas utilisé ici, mais je dirais que c'est en train d'écrire l'enfer. Et ça a été préparé pour qui, selon ce verset? Pour le diable et pour ses anges. Ça n'a pas été créé pour les êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que les êtres humains ne s'y retrouveront pas s'ils refusent la solution que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Apocalypse 20:10 nous parle aussi de l'étang de le diable qui les égarait puis jeter dans l'étang de feu. Je vais progresser parce que là, je ne veux pas vous retenir plus longtemps ou trop longtemps. Mais la description de l'étang de feu, c'est un lieu pour les méchants où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un lieu où le feu ne s'éteint pas. Un lieu de feu et de souffle qui dure jour et nuit au siècle des siècles. Alors, c'est grave de défier Dieu. C'est ce que je crois que Dieu essayait de nous communiquer en nous rapportant ces quelques éléments. L'étang de feu, l'enfer, c'est pas un lieu de repos. C'est pas un lieu de party puis de fête, là. Comme j'ai déjà entendu certaines personnes dire. C'est le juste jugement de Dieu. Puis je suis certain, puis je suis convaincu qu'à cause du caractère saint, juste, aimant de Dieu, il ne peut plus que personne ne se retrouve là. Ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. C'est le choix que l'on fait. Personnellement. Dieu veut nous montrer ou nous avertir des conséquences de le défier. Nous faire comprendre aussi que personne ne peut lutter contre lui puis avoir de dessus puis gagner. Mais pendant ce temps, Dieu a donné une certaine liberté à Satan. Ça ferait peut-être tout mon affaire s'il avait réglé son compte tout de suite. Mais disons que c'est pas à moi de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. N'est-ce pas? Alors, je vis avec cette réalité-là comme vous vivez avec cette réalité-là. Mais pendant ce temps, Lucifer et ses acolytes, eh bien, ils cherchent à tromper, à décevoir par toutes sortes de manières possibles. Des formes occultistes, d'occultistes, des planches Ouija, l'horoscope, médium, sorcellerie, diseuses de bonne aventure, des guérisseurs spirituels, puis on peut en... Mais vous savez aussi, il peut se servir de la religion. C'est pas le fait de se réunir ici ce matin puis de réchauffer une chaise ou d'être moi ici en avant que c'est ça qui nous sauve. C'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est à voir qu'est-ce que c'est qu'on a fait de son fils Jésus-Christ qui est venu ici-bas, suspendu sur la croix, pour subir le châtiment que moi je méritais, que vous méritiez, qu'on méritait tous. Et que par la foi en lui, eh bien, le péché qui nous condamne puisse être pardonné et qu'on puisse être réconcilié avec notre Créateur, notre propriétaire. Alors, n'imitons pas Satan en se rebellant contre Dieu, parce que ce n'est pas notre bénéfice à notre avantage. Acceptons plutôt, à cause de notre péché qui nous condamne, d'accepter la solution que Dieu nous offre en Jésus-Christ et que par la foi en lui, eh bien, on puisse avoir, être en bon terme avec notre Dieu, notre Créateur, et de jouir d'une vie qui désire, puis d'éviter la condamnation éternelle. Prions. Père éternel, merci. En sachant cela, tu n'as pas voulu nous laisser dans notre condamnation, dans notre perdition, mais que tu nous offres en Jésus-Christ le moyen d'être réconcilié avec toi. On te prie de continuer à nous instruire par ta parole, de nous aider à saisir les vérités qui sont pertinentes, importantes pour chacun d'entre nous. Et qu'on puisse laisser ton esprit nous attirer à toi, de nous amener à te faire confiance que c'est toi qui as la vérité et ton ennemi cherche à nous distraire, à nous dérouter, à nous décourager d'entretenir une relation avec toi que tu désires tellement. Viens à notre secours, viens à notre aide, au nom de ton Fils. Amen.